Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous écoutez bien Transistor, il est 20h, passé de 31 minutes. Vous écoutez le journal radiophonique amplifié, 51e, nous sommes le jeudi 25 avril 2019 et toute l'équipe est là après la JDR pour l'actu mixé, égalisé, monté, égalisé, j'ai déjà dit bien sûr amplifié. Décidément après la JDR c'est difficile. Bonsoir Mathilde, je te laisse la parole.
Bonsoir Rémi. Alors aujourd'hui au programme, on va d'abord commencer par des brèves, comme toujours. Avec des nouvelles de Gaspard Glance et de Nathalie Loiseau, on partira ensuite pour l'international au Sri Lanka et au Soudan. Il y aura la revue de presse de Marie, la notion pourrie d'Arthur, l'édito écolo et les pieds dans le tapis. Et bien sûr, des sciences, de la culture et une musicienne.
Et tout de suite, c'est parti pour le journal. Bonsoir Marie.
Bonsoir, on commence Rémi par le National. Avec toi Mathilde, tu nous fais le point sur une affaire qui fait beaucoup parler en ce moment, une arrestation.
Oui, l'arrestation de Gaspard Glance, le fondateur du site Info Taranis News, qui selon Mediapart est la figure de proue d'une nouvelle forme de journalisme cash et engagé. Il a été interpellé samedi 20 avril durant une manifestation des Gilets jaunes, a été arrêté, retenu 48 heures en garde à vue et sera convoqué pour une audience le 18 octobre prochain pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations. Le juge des libertés et de la détention lui a interdit de se rendre aux manifestations tous les samedis et le 1er mai. Cela revient à empêcher la liberté de la presse et son travail de journaliste, c'est-à-dire couvrir les mouvements sociaux. Celui-ci a donc déclaré qu'il continuerait à venir aux manifestations et à faire son travail. L'ONG Reporters sans frontières et le syndicat SNJ ont dénoncé la répression de Gaspard Glance, mais aussi la répression plus en général en ce moment des journalistes, durant notamment les mouvements des Gilets jaunes. Deux journalistes indépendants ont été interpellés et plusieurs autres ont été ciblés par des tirs de LBD, alors même qu'ils étaient identifiés comme presse.
Alors on enchaîne sur une autre affaire qui fait beaucoup parler en ce moment. Mediapart a révélé lundi que Nathalie Loiseau, tête de liste de La République En Marche pour les élections européennes, se serait engagée dans sa jeunesse aux côtés de militants d'extrême droite. Elle se serait en effet portée candidate lors des élections des délégués étudiants de l'Union des étudiants de droite, un syndicat issu du GUD, groupe Union Défense, une ancienne organisation étudiante d'extrême droite aujourd'hui dissoute. Si La République En Marche défend sa candidate en dénonçant une polémique ridicule, en mentionnant une erreur de jeunesse et en insistant sur le fait que Nathalie Loiseau a souvent été une adversaire farouche des candidats d'extrême droite, les autres candidats des européennes, comme Yann Brossard ou François-Xavier Bellamy, n'ont pas manqué, eux, de pointer l'incohérence des actions de l'ancienne ministre des Affaires européennes. L'intéressée, après avoir nié les faits, a assuré avoir oublié cet épisode, puis s'être rapprochée d'une liste qui recherchait des femmes, fait rare à l'époque, avant d'avouer qu'elle n'avait à l'époque pas réellement perçu le bord politique de cette liste. Une justification qui peine à convaincre à l'heure où le RN est donné en tête des sondages des élections européennes. Maë, tu nous parles maintenant d'un appel des maires de France.
Exactement, mercredi 24 avril, les maires de 13 villes françaises, Paris, Lille, Bordeaux, Saint-Denis, Aubervilliers, Rennes, Troyes, Metz, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Grenoble et Grande-Synthe, ont adressé une lettre au ministère de l'Intérieur afin de dénoncer la situation indigne des migrants en France et de réclamer des places d'hébergement supplémentaires. Soutenus par des associations comme France Terre d'Asile, Emmaüs France ou l'Armée du Salut, ils expriment leur désarroi pour prendre en charge tous les réfugiés, notamment à Paris, où la fin de la trêve hivernale a conduit à l'expulsion de plusieurs campements et où l'association Terre d'Asile, le 19 avril, dénombrait environ 700 tentes occupées par des migrants, soit près de 1500 personnes.
Alors passons maintenant à l'international et on te retrouve Maë pour parler d'un sommet.
Exactement, ce jeudi 25 avril, la Russie et la Corée du Nord ont connu leur premier sommet depuis 2002. Le président russe Vladimir Poutine a accueilli Kim Jong-un sur l'île Rouski en face du port de Vladivostok. Alors que la Corée du Nord se trouve en pleine impasse diplomatique avec Washington sur le nucléaire et cherche des soutiens. Si nulle signature d'accord n'était prévue, les deux dirigeants devaient néanmoins discuter, outre du dossier nucléaire, de leur coopération économique et plus particulièrement de la question de la main-d'œuvre nord-coréenne employée en Russie. Alors que l'attention du monde est focalisée sur la péninsule coréenne, a déclaré Kim Jong-un, nous allons avoir un dialogue très pertinent pour nous permettre d'évaluer conjointement les politiques autour de la péninsule coréenne et partager, coordonner et étudier nos points de vue.
Alors on passe maintenant à une annonce qui a causé autant de remous sur les marchés que sur la scène internationale. Mardi dernier, Trump a déclaré que les États-Unis n'allaient pas renouveler les exemptions aux pays qui importent du pétrole iranien. La décision a entraîné une hausse immédiate du coût du baril, une décision dont le but a été clairement annoncé par la Maison-Blanche, réduire, je cite, les exportations iraniennes à zéro pour soustraire au régime sa principale source de revenus. L'objectif donc, c'est d'asphyxier l'économie iranienne pour contraindre le pays à un changement de régime. L'annonce des États-Unis a rapidement fait réagir les pays concernés, la Chine, qui a appelé au respect de sa coopération avec l'Iran, la Turquie, fortement dépendante des importations de pétrole iranien et qui a refusé la décision américaine, et même la Corée du Sud, pourtant traditionnelle alliée de Washington. Trump compte sur une hausse de la production de son allié l'Arabie Saoudite pour compenser la hausse du prix du baril, mais oublie l'impact potentiel de plusieurs facteurs, et notamment deux. La situation chaotique en Libye, qui aura sûrement des conséquences sur la production pétrolière du pays, mais également la baisse de la production de pétrole au Venezuela, pays plongé dans le chaos depuis maintenant plusieurs mois et peinant à supporter les sanctions américaines. Et retour avec toi Benoît sur des attentats au Sri Lanka.
Effectivement, une série d'attentats kamikazes a tué plus de 300 personnes et blessé quelques 500 autres au Sri Lanka le 21 avril dernier dans des églises et des hôtels de luxe. Ces attaques attribuées aux membres du groupuscule islamiste local National Tawhid Jamaat, visant d'une part la population chrétienne de l'île ainsi que les hôtels fréquentés par des occidentaux, a assuré à ses perpétrateurs, un écho médiatique international. Ces attentats mettent en avant l'intérêt des territoires sud et sud-est asiatiques pour le terrorisme international, après ceux ayant frappé l'Indonésie en 2018, le Bangladesh en 2015, ainsi que les Philippines. Alors que le Sri Lanka est en paix depuis une décennie après 30 ans de guerre civile entre la majorité singhalaise bouddhiste et le mouvement séparatiste tamoul, les attentats du 21 avril ravivent les tensions entre cette même majorité et la minorité musulmane. Colombo s'est engagé dans une gigantesque traque des suspects avec le renfort de l'armée, déployant des milliers de soldats en plus des effectifs de police.
Et pour finir, un point sur le Soudan où a eu lieu hier, une réunion entre le conseil militaire et l'opposition, opposition qui réclame le transfert du pouvoir à une autorité civile et est représentée par l'Alliance pour la liberté et le changement, l'ALC. Conclusion, la démission de 3 membres du Conseil, l'annonce d'un accord sur la plupart des exigences de l'opposition et la formation d'un Conseil conjoint. Des annonces positives certes, mais qui ne satisfont pas totalement une population qui continue de manifester et qui annonce une grève générale si les militaires refusent le transfert du pouvoir à la société civile. Et pour la première fois hier, les juges se sont joints aux manifestants pour réclamer un système judiciaire indépendant. Côté communauté internationale, les États-Unis soutiennent la demande légitime des Soudanais d'un gouvernement dirigé par des civils, alors que plusieurs pays africains, réunis à la demande de l'Égypte, ont appelé mardi à une transition pacifique et démocratique d'ici 3 mois. Une affaire au dénouement crucial pour l'avenir d'un pays perclus de tensions, mais sans doute pas imminent.
Merci beaucoup Marie, merci à toutes et à tous pour ce journal. Et à 20h passées de 39 minutes, c'est l'heure d'un billet d'ici, un billet ici mais aussi un petit peu ailleurs ce soir. Benoît, de quoi tu nous parles ?
Du Yémen du coup.